Voilà, je veux vous souhaiter la bienvenue en tout cas dans cette nouvelle salle et je pense comme on l'a fait tout à l'heure, on a pris le temps de regarder un petit peu ce que 3 mois d'attente ont valu. Et nous voilà déjà en été avec des journées plus longues, avec la perspective des vacances pour un certain nombre d'entre nous. Et si cet été, nous prenions également le temps de réfléchir sur notre vie à partir du livre de l'Ecclésiaste. L'an dernier, nous avions démarré la méditation de ce livre de sagesse. Et je rappelle quelques grandes lignes de ce que nous avions vu. Et déjà, avec ce plan proposé par Sylvain Romerowski, pour nous situer un petit peu et pour voir comment est composé ce livre. L'été dernier, nous avions vu toute la première partie. Dans cette première partie, nous lisons la description de la condition humaine telle que nous la connaissons. Une condition qui est marquée par la vanité, par la fragilité, par la frustration, la déception. À cause de la chute, à cause de la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève, la vie telle qu'elle est devenue difficile. Avec la présence du péché, avec les aléas et beaucoup de futilité. Vanité des vanités, tout est vanité. Voilà ce que nous pouvons lire dans la première partie. Et nous ne pouvons pas échapper à cette condition tant que nous sommes sous le soleil, c'est-à-dire sur cette terre, ici-bas. L'Ecclésiaste, qui est aussi appelé le Kohélète en hébreu, a fait ses expériences. Il a constaté que tout était vanité, que tout finit par décevoir. Mais la vie n'a pas que des côtés négatifs. Au milieu de son dur labeur, l'être humain trouve encore du bon, trouve de la joie dans le simple fait de manger, de boire, de prendre du bon temps. Oui, ça fait partie aussi de la vie. Et le Kohélète reconnaît que cette joie, ce bon plaisir, vient de Dieu. Et tout à l'heure, nous l'avons loué pour ses bienfaits. Oui, toute bonne chose nous vient de Dieu, et nous le louons pour ça. Dieu, dont il est dit qu'il fait toute chose belle en son temps. C'est aussi dans la première partie du livre. Dieu dont l'œuvre dans son entièreté demeure insaisissable pour l'être humain. Nous ne pouvons pas tout comprendre de tout ce que Dieu fait. La vie telle qu'elle est comporte donc du bon et du moins bon. Et nous ne pouvons pas changer cela. Alors comment naviguer au milieu de ces eaux troubles? Comment assumer cette condition humaine dans laquelle nous sommes depuis notre naissance? Eh bien, c'est de cette manière-là que nous parvenons à la deuxième partie. Cette deuxième partie qui comporte bien des conseils de sagesse. Qu'est-ce que Dieu, par l'intermédiaire du Kohélète, nous conseille à nous humains pour assumer la vie telle qu'elle est, avec son lot de joie et de peine? Qu'est-ce que Dieu nous conseille? Mes amis, quand la vie est particulièrement difficile, nous ne sommes pas sans ressources. Dieu veut nous instruire. Dieu veut nous rendre toujours plus sages avec sa parole pour vivre la vie telle qu'elle est. Et humblement, nous nous mettons à son écoute ce matin. D'abord, premièrement, pour vivre avec sagesse dans un monde déchu. Comme nous l'avons entendu tout à l'heure, le chapitre 6 se termine par ces questions. Qui sait, en effet, ce qui est bon pour l'homme dans la vie, tout au long de sa vie sans consistance qu'il traverse comme une ombre? Et qui peut annoncer à l'homme ce qui existera après lui sous le soleil? Le Kohélète va donc répondre à ces questions-là dans notre texte. Et à plusieurs reprises, le Kohélète nous dit « mieux vaut ». Lorsque vous dites cela, généralement c'est pour donner des conseils, pour évoquer ce qui est préférable. Vous dites « mieux vaut ceci que cela ». Je te le conseille. Donc, il ne s'agit pas d'aborder ces paroles de sagesse que nous avons dans notre texte comme des lois ou comme des commandements. Mieux vaut. Tu écoutes ce conseil ou tu ne l'écoutes pas, mais mieux vaut. Et contrairement aux conseils que nous pourrions recevoir des autres ou que nous pourrions nous-mêmes donner, les conseils qui viennent de la parole même de Dieu ne sont jamais mauvais. Ne pas les suivre, c'est déjà nous éloigner de la sagesse. C'est déjà estimer que nous savons mieux que Dieu comment nous devons gérer notre vie. les conseils que Dieu nous donne ne sont jamais mauvais. Et je vais m'attarder ce matin sur deux conseils. Premièrement, mieux vaut réfléchir que fuir. Et deuxièmement, mieux vaut être patient qu'arrogant. Commençons par ce premier conseil, mieux vaut réfléchir que fuir. Et je relis les versets 2 à 4. Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme. Et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. Mieux vaut le chagrin que le rire, car malgré un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et celui des hommes stupides dans la maison de joie. Mieux vaut réfléchir que fuir la réalité. Et c'est sûr que je vais commencer par un sujet qui n'est pas du tout joyeux, mais qui correspond à la réalité. L'expérience du deuil, qui fait partie des grandes souffrances survenues après la chute. Avec l'entrée du péché dans le monde, par la désobéissance d'Adam et d'Ève, la mort physique a atteint notre humanité. Et séparé du Seigneur de la vie, l'être humain ne pouvait que mourir. Tel est l'avertissement que Dieu avait donné. Je rappelle Genèse chapitre 2, verset 17. « Tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » C'est certain. Bien que le deuil soit une expérience qu'on ne préfère pas vivre, il est une expérience inévitable dans notre parcours de vie. Tôt ou tard, nous sommes confrontés au décès d'un proche, d'un ami, de personnes que nous avons côtoyées, avec qui peut-être nous avons travaillé. Tôt ou tard, cela nous arrive. Si certains préfèrent fuir cette réalité, le Qohélète conseille au contraire de l'assumer, d'accepter que la mort fasse partie de la condition humaine et que telle est la fin de tout homme, verset 2. D'accepter cela. Se voiler la face et se réfugier dans le rire est considéré dans notre texte comme une attitude insensée. Le rire dont il est question ici, ce n'est pas le rire nerveux qui peut arriver le jour d'un enterrement, voire le fou rire. J'ai déjà entendu ce genre d'histoire. Ce n'est pas de ce rire-là dont on parle. Le rire dont il est question au verset 3 est le rire refuge, le rire des insensés qui ne veulent pas prendre la vie au sérieux, qui préfèrent la fuite à la confrontation. C'est l'attitude d'une personne qui n'est pas réaliste, qui ne veut pas voir la réalité en face. Pourquoi est-il préférable de se rendre dans une maison de deuil, autrement dit, de participer à des obsèques dans notre contexte? Parce que là, nous sommes véritablement confrontés à la réalité de la condition humaine. Lorsqu'une personne meurt autour de nous, cela nous rappelle sans détour que nous sommes bel et bien mortels. Et à cause de cette condition d'être mortel, il est sage, dans ces moments tristes, de réfléchir à sa propre vie. Le fait que notre vie a un terme et que cela nous est rappelé de cette manière nous conduit à considérer que la vie est fragile, qu'elle passe vite et qu'il est insensé de perdre davantage de temps. Qu'il existe forcément une manière de faire un meilleur usage de notre vie, un meilleur usage de notre temps qui est compté. Cela nous pousse à réfléchir dans ces moments-là. Si le Qohélète nous conseille dans ces moments le chagrin à la place du rire, c'est précisément pour nous dire de ne pas fuir la réalité quand elle se présente à nous. De ne pas fuir la mort lorsqu'elle frappe sans crier gare. De ne pas faire semblant comme si nous allions bien. Et certains admettent que dans les étapes du deuil, il y a un temps de déni où nous avons du mal à admettre le décès d'une personne, où nous ne voulons pas accepter cette réalité. Mais cette étape ne peut pas durer indéfiniment. Ce ne serait pas sain. Le Qohélète le sait et il n'a pas besoin d'avoir un doctorat en psychologie pour le dire. Il a juste observé ce qui se faisait sous le soleil. Et même s'il s'agit pour nous de soutenir d'autres dans leur deuil, ces moments servent à nous faire réfléchir à prendre la vie au sérieux. Et c'est en ce sens qu'il est possible de comprendre au verset 1 que le jour de la mort est préférable au jour de la naissance. Là où la joie est au rendez-vous pour une naissance, ce qui est tout à fait normal et approprié, la réflexion profonde et sérieuse rejoint la tristesse lors d'un décès. C'est dans ces moments-là qu'on est les plus sérieux, normalement. Le deuxième conseil est « mieux vaut être patient qu'arrogant ». Voici les versets en question, versets 8 à 10. « Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit arrogant. Ne t'irrite pas trop vite intérieurement, car l'irritation est le propre des hommes stupides. Ne dis pas « comment se fait-il que les jours passés aient été meilleurs que ceux-ci ?» car ce n'est pas la sagesse qui te pousse à demander cela. » Dans une traduction plus littérale, nous lisons au verset 8 « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Donc, le début de ce verset est assez général. En tout cas, on peut le comprendre de cette manière-là. D'ailleurs, on peut le comprendre de bien des manières, et je vous donne quelques exemples. Je commence par le plus évident pour nous. Mieux vaut la fin des travaux que son début. Nous avons sous nos yeux le résultat dans cette belle salle. Mieux vaut la fin d'une épreuve ou d'une maladie que son début. Tout le monde sera d'accord avec moi, n'est-ce pas ? Mieux vaut l'aboutissement d'un projet que son début. Par exemple, dans le cadre de notre travail ou de notre vie d'église. Ainsi, nous voyons la concrétisation de ce qui n'était au départ qu'une idée. Mieux vaut l'aboutissement d'un projet que son début. Un dernier exemple, mieux vaut l'aboutissement de notre vie chrétienne que son début. Car alors nous serons avec le Seigneur, pour notre plus grand bonheur, parvenus au bout de notre course. Ce proverbe, bien évidemment, ne s'applique pas à tout. Je pense qu'aucun d'entre nous ne songe à dire qu'il vaut mieux la fin des vacances que leur début. À part lorsque cela ne se passe pas bien. Là, on est pressé que ça soit terminé. Généralement, pour les choses agréables, nous ne sommes pas pressés d'arriver à la fin. Maintenant, si nous relions ce proverbe aux versets qui suivent, nous comprenons alors qu'il vaut mieux patienter, attendre patiemment la fin d'une affaire, voir comment tout cela va se terminer au lieu de réagir de manière trop brusque. L'emportement, l'irritation, nous dit le Kohélète au verset 9, est le propre des hommes stupides. Et dans bien des situations, nous avons pu nous rendre compte que nous nous étions emportés trop vite, peut-être sur un malentendu. Que si nous avions attendu la conclusion de toute cette affaire, nous n'aurions pas réagi comme nous l'avons fait. Peut-être que ça nous est déjà arrivé, n'est-ce pas ? Parfois, nous nous emportons par arrogance, nous croyons savoir, nous croyons tout savoir. Votre conjoint vous dit que c'est dans cette direction que vous devez rouler, mais votre sens infaillible de l'orientation vous dit le contraire. Vous vous emportez parce que vous savez mieux que votre conjoint. Et finalement, après bien des détours, vous devez bien admettre que votre conjoint avait raison. Nous pouvons nous emporter si vite. Alors je vois que certains sourient, donc ça peut ressembler à du vécu. Mais c'est vrai. Nous pouvons réagir si rapidement, alors que mieux vaut l'aboutissement d'une chose que son début. Mieux vaut attendre de voir comment les choses se déroulent que de réagir trop vite. Avoir un esprit patient, cela signifie donc être lent à la colère. Et dans le Nouveau Testament, nous pouvons lire en Jacques chapitre 1, versets 19 et 20, « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Voilà ce que Dieu demande à ses enfants, d'être lent à se mettre en colère. Avons-nous, en ce moment, besoin d'entendre ces paroles ? Revenons à l'Ecclésiaste. Si le verset 8, « Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début », est à relier avec le verset 10, eh bien, nous comprenons pourquoi il n'est pas toujours sage de faire preuve de nostalgie. Le Qohelet nous met en garde contre cette tendance humaine qui s'accentue d'ailleurs avec l'âge, qui consiste à considérer le passé comme meilleur que le présent. Ah, c'était le bon vieux temps. Idéaliser le passé est une forme de fuite de la réalité. Le présent peut effectivement nous sembler difficile sur le coup. Et à certains égards, le passé avait l'air plus agréable. L'avenir peut nous sembler sombre et nous imaginons parfois le pire. Mais en réalité, qu'en savons-nous? Sommes-nous des devins? Connaissons-nous l'avenir? Après tout, nous ne connaissons pas le fin mot de l'histoire. Nous ne savons pas comment tout cela va se terminer. Nous ne savons pas d'avance comment Dieu va agir. Qui peut prédire ce que Dieu va faire? Écoutons ce que dit le Qohelet. Mieux vaut patienter, attendre, observer l'évolution d'une situation. Et s'il est vrai que Dieu fait toutes choses belles en son temps, Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, s'il est vrai que Dieu fait toutes choses belles en son temps, alors nous avons bon espoir que de belles choses sont encore à venir. Peut-être pas comme nous le pensons, peut-être pas pour la situation dans laquelle nous sommes en ce moment. Mais si Dieu fait toutes choses belles en son temps, nous pouvons être certains que même à l'avenir, il y aura de belles choses. Si dans certains cas, la fin vaut mieux que le début, il faut savoir l'attendre avec patience. Tel est le conseil qui nous est donné ce matin. Et peut-être qu'en ce moment, nous avons besoin d'un tel conseil de la part du Seigneur. Mieux vaut un esprit patient. Le Qohelet qui connaît la vie, qui a tout expérimenté ou presque, nous laisse entre autres ces deux conseils de sagesse sur lesquels je me suis attardé. Mieux vaut réfléchir durant les jours de deuil que fuir la réalité et le sujet de la mort. Mieux vaut être patient qu'arrogant que s'emporter trop facilement ou blâmer le présent en regardant au passé. Et je pense que nous l'avons saisi, le Qohelet nous invite à prendre la voie de la sagesse. Adopter ces attitudes-là, c'est être sage. D'ailleurs, il fait l'éloge de cette sagesse au verset 11 et 12. Il est clair que posséder la sagesse est plus avantageux que de s'en priver. Pardon. Nous dirions la même chose de l'argent. Il est plus avantageux d'en avoir que d'en être privé. Et c'est pourquoi le Qohelet fait cette comparaison. À l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Vous appréciez la poésie de cette phrase ? À l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Vivre dans un monde déchu, corrompu par le péché, marqué par ses conséquences, nécessite de la sagesse. Cependant, la fin de notre texte, les versets 13 et 14, nous montre que pour autant, même avec de la sagesse, nous ne sommes pas en maîtrise de ce monde, ni de notre vie. Un seul maîtrise tout ce qui s'y passe, notre Dieu. Et c'est l'objet de mon deuxième point. Certes, nous devons vivre avec sagesse dans un monde déchu, mais ce monde déchu en question est un monde qui est maîtrisé par Dieu. Après avoir donné les avantages indéniables de la sagesse, le Qohelet présente un problème qui est insoluble pour l'homme. Regardez le verset 13. Regarde ce que Dieu a fait. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Face à ce que Dieu a courbé, ce que Dieu a tordu, l'homme ne peut rien faire. Qu'est-ce que Dieu a courbé dans notre monde? Retournons à Genèse 3. Après la chute, Dieu a dit « Le sol est maudit à cause de toi ». Genèse chapitre 3, verset 17. « Dieu a rendu le travail de l'homme pénible, ainsi que le travail de la femme au moment de l'accouchement. Dieu a exécuté sa sentence, la mort pour tous les pécheurs qui ont été tirés de la poussière et qui retourneront à la poussière. Et cela ne devait pas avoir lieu dans le projet initial de Dieu. Ce n'était pas à ce monde-là que Dieu pensait. lorsqu'il a créé le monde. Mais à cause du péché, à cause de la désobéissance des hommes, Dieu a soumis ce monde à la futilité. Conséquence du péché que l'homme a laissé introduire dans sa vie et dans le monde. Ainsi, Dieu montre que c'est lui qui tient ce monde dans sa main. Que la malédiction qui touche la condition humaine n'est toujours pas levée. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Qui pourra redresser ce que Dieu a tordu? Personne, si ce n'est Dieu lui-même. Seul Dieu, et c'est notre espérance, seul Dieu redressera ce qu'il a courbé. Seul Dieu fera en sorte que les conséquences du péché ne seront plus. Ainsi, nous lisons en Romains chapitre 8, versets 20 et 21, « En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. » Oui, au jour du retour de Christ, lui qui est mort et ressuscité pour notre salut, toute la création sera libérée de la corruption. La condition humaine telle que nous la connaissons maintenant ne sera plus. Elle n'est pas destinée à être éternelle. La victoire sur le péché et sur la mort sera définitive ce jour-là. Mais en attendant, et il faut bien attendre, puisque ce jour n'est pas encore là. Mais en attendant, nul ne peut redresser ce que Dieu a courbé. Notre part est la suivante. Verset 13, regarde ce que Dieu a fait. Regarde. Regarde la réalité en face. Regarde la condition humaine telle qu'elle est. Regarde le monde soumis à la futilité, car celui qui l'y a soumis, c'est Dieu. Le Créateur. Si nous ne pouvons pas échapper à notre condition misérable, c'est parce que nous ne pouvons pas redresser ce que Dieu a courbé. Et je sais qu'il y a une certaine pesanteur, une certaine lourdeur d'entendre cela de nouveau, mais à partir de ce que Dieu nous dit dans sa parole. Oui, la lourdeur de notre condition humaine est réelle, elle est pesante, elle est difficile à supporter, mais ce n'est rien de moins que la réalité. Alors autant suivre les conseils de sagesse que Dieu nous donne dans sa parole pour assumer au mieux la vie telle qu'elle est. Et le verset 14 va dans le même sens. Regardez le verset 14. « Le jour du bonheur soit heureux et le jour du malheur réfléchis. » Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne puisse absolument pas découvrir ce qui se passera après lui. Nous vivons dans un monde créé par Dieu, où rien ne lui échappe. Un commentateur disait, à juste titre, que nous devons nous souvenir que l'univers n'est pas une machine imprévisible, mais qu'il est gouverné par quelqu'un. Donc dans tout ce qui se passe dans notre vie, ça se passe sous le gouvernement de Dieu. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas une machine qui, tout d'un coup, est détraquée et qui nous fait subir toutes sortes de mauvaises choses. Tout se passe sous le gouvernement et la maîtrise de Dieu. Notre vie est gouvernée par quelqu'un. Et ce n'est pas nous. Et c'est ce que le Qohelet nous dit. Dieu a fait le jour du bonheur et le jour du malheur. Pour l'un, il s'agit d'en profiter et de se réjouir. Pour l'autre, il s'agit de réfléchir, comme nous l'avons vu au début. Et évidemment, quand on dit une telle affirmation, ça nous ferait bondir si Dieu était mauvais. Parce que des jours de malheur entre les mains d'un Dieu mauvais, c'est mauvais signe pour nous. Mais Dieu est un Dieu absolument bon, de telle sorte que dans ses bonnes mains, le jour du malheur a aussi son utilité. Quel est donc le but de Dieu dans tout ça? Pourquoi il a fait le jour du bonheur et le jour du malheur? Eh bien, nous avons la réponse dans notre texte, pour nous maintenir dans l'ignorance. Et cela correspond parfaitement à ce que, à notre condition en tant que créature limitée. Nous ne pouvons pas tout savoir, et encore moins ce qui fait partie de l'avenir, à moins que Dieu nous le fasse savoir. Oui, nous savons par exemple en partie à quoi ressemblera notre bonheur éternel. Et nous avons la certitude d'un avenir glorieux avec le Seigneur, mais nous ne savons pas quand. Et en attendant ce jour, il y a tout un pan de l'avenir que Dieu ne veut pas nous révéler. Et seul Dieu connaît entièrement l'avenir. Seul Dieu sait ce qui se passera la semaine prochaine pour vous et pour moi. Et ce savoir n'est pas à notre portée. De telle sorte qu'il nous faut dépendre de Dieu entièrement. Vous imaginez bien que si nous savions tout d'avance, nous cesserions de dépendre de Dieu. Jour de bonheur et jour de malheur, peut-on accepter que Dieu a fait l'un comme l'autre ? Pas plus tard que cette semaine, quelqu'un disait que tout allait bien dans sa vie avant la prochaine tempête. Et ce n'est pas la première fois que j'entends cela. Oui, la vie est composée de jours de bonheur et de jours de malheur. Et le Qohélète l'affirme, Dieu a fait l'un comme l'autre. Dans sa souveraineté, il y a toujours quelque chose à en tirer. Le jour du malheur n'est pas inutile pour celles et ceux qui suivent les conseils de sagesse. Et Dieu nous dit, le jour du malheur, réfléchis. Profite de cette occasion pour réfléchir. Je ne sais pas pour tous si votre quotidien en ce moment est fait de bons ou de mauvais jours, mais souvenons-nous que nous vivons dans un monde maîtrisé par Dieu. Souvenons-nous de profiter au maximum de toutes les bonnes choses que Dieu nous donne. Le jour du bonheur, sois heureux. Sois heureux. Profite de ton bonheur. Ne t'inquiète pas de la prochaine tempête. Profite de ce que Dieu te donne. Mais souvenons-nous aussi qu'il est sage de réfléchir quand le malheur nous atteint, de prendre au sérieux notre vie. Et souvenons-nous enfin que nous dépendons de Dieu pour tout ce qui fait notre vie. Rien ne lui échappe et cela doit nous rassurer. Pourquoi devrions-nous suivre les conseils de sagesse du Qohélète ? Tels que regarder la réalité en face, en particulier dans les moments de deuil. Ou être patient et ne pas regretter le passé au détriment du présent. Pourquoi devrions-nous suivre les conseils qui nous sont donnés ici dans la parole de Dieu ? Premièrement, d'abord parce que justement, ces conseils se trouvent dans la parole de Dieu. On n'est pas en train de lire un livre de sagesse qu'on a trouvé à la FNAC. Même si la Bible se trouve aussi à la FNAC. Mais c'est dans la parole de Dieu. Donc pourquoi devrions-nous suivre ces conseils ? Parce que Dieu nous les donne, ces conseils. Pour pouvoir vivre avec sagesse dans ce monde où tout est vanité. Et ensuite, deuxième raison, parce que ce monde dans lequel nous vivons, bien qu'il soit déchu, est maîtrisé par notre Dieu souverain. C'est sous contrôle, mais c'est Dieu qui contrôle. Parce que Jésus est venu dans le monde, qu'il est mort à notre place, qu'il a été condamné pour nos péchés, qu'il est glorieusement ressuscité et qu'il est retourné auprès du Père, nous avons l'espérance, l'assurance de son retour triomphal pour lever définitivement la malédiction qui pèse sur la création. C'est pourquoi, avec confiance, avec foi, nous pouvons suivre les conseils qui sont contenus dans le livre de l'Ecclésiaste. Accepter ce que Dieu a pour l'instant courbé. Accepter les jours de bonheur comme les jours de malheur. Sans doute faut-il faire preuve de patience. Mais nous attendons ce jour. Ce jour heureux où Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Nous attendons avec foi et espérance l'heureuse réalisation de tout ce que Dieu a promis pour ses enfants. Et c'est ce qui nous permet de continuer à vivre avec espérance la vie telle qu'elle est. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous nous tenons devant toi, humblement, humblement devant la vérité de ta parole, en nous laissant instruire par toi dans la sagesse que tu veux nous inculquer. Seigneur, nous savons bien, par notre expérience, que la vie n'est pas toujours facile. Nous savons bien, dans notre quotidien, que bien souvent, il faut supporter la lourdeur de notre condition humaine, marquée par le péché, marquée par toutes les conséquences du péché. Mais merci parce que, malgré tous ces désagréments, tu nous as donné des conseils. Tu nous as laissé dans ta parole des conseils à suivre. Et si nous les suivons, effectivement, eh bien, tu nous dis que nous ferons preuve de sagesse et que cela nous permettra de vivre au mieux, tant bien que mal, la vie telle qu'elle est. D'accepter aussi ce que tu as courbé pour l'instant et que tu redresseras un jour. De pouvoir nous soumettre à toi dans les jours plus difficiles, dans les jours où nous nous sommes poussés à réfléchir peut-être au sens de notre vie, à réfléchir au temps que nous utilisons et à nous dire « c'est fini, je ne veux plus gâcher ma vie ». Seigneur, tout cela, nous voulons tout simplement te remercier parce que tu ne nous laisses pas sans ressources dans cette vie. Nous avons ta parole. Nous avons toute la sagesse qu'elle contient, toute ta sagesse. Et nous voulons te remercier parce que c'est de cette manière-là que tu nous permets de persévérer dans une condition qui, certes, est difficile. Oui, nous soupirons avec tout le reste de la création après notre libération totale. Mais merci parce que nous avons cet avenir en vue. C'est notre horizon, une horizon certaine. Et nous nous soumettons à toi, Seigneur, encore en cette vie, pour que tu maintiennes dans notre cœur cette espérance, tout en sachant accepter avec sagesse la réalité de la vie telle qu'elle est. C'est ainsi que nous te prions au nom de Jésus. Amen.